Bonjour à tous, bienvenue. On vous emmène faire une visite de la plus ancienne savonnerie de Marseille. L'usine vient tout juste d'être classée au titre des monuments historiques. On s'intéresse ensuite à la campagne de dons de moelle osseuse qui nous fait sauter dans le vide. Et enfin, on se sert une bière à la pompe à essence à Rennes. Mais avant tout cela, c'est l'actu de ce vendredi 5 avril. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Tournier, bonjour à tous.
Le chiffre du jour, c'est le 110, comme le téléphone pour faire un don au SIDAction.
25 ans après le premier SIDAction, les traitements ont progressé, mais on vit une banalité. L'analysation de l'épidémie, le virus du sida est toujours là et on ne se protège pas assez. On va entendre un témoignage, une infirmière scolaire et les parrains de l'édition.
La sonde japonaise Hayabusa 2 a réussi à se poser sur un lointain astéroïde à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre.
Ça s'est passé cette nuit hors française et vous ne dormiez pas, Valérie Barbe.
Oh bah non, pas question de louper un exploit pareil. Imaginez, arriver à bombarder un astéroïde sans se prendre un seul bout de roche dans la carlingue. Génial.
Bravo les filles, l'équipe de France féminine de football continue sa marche en avant.
À deux mois de la Coupe du Monde qui se déroule en France, elles ont battu le Japon dans une belle ambiance à Auxerre. Des spectateurs sont même admiratifs.
Bienvenue à tous et bonnes vacances à ceux qui en profitent dans la zone B.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Et on vient d'apprendre la mort de Jean-Pierre Farkas.
C'est l'un de nos anciens patrons à la direction des radios locales, les France Bleu aujourd'hui. Et ça nous rappelle des souvenirs, évidemment. Il avait aussi dirigé France Inter dans les années 80. Auparavant, il avait travaillé à RTL, à Paris Match et au Journal du Dimanche. Jean-Pierre Farkas avait 86 ans.
Si vous prenez la route ce week-end, vous ne serez pas seul, c'est le début des vacances de printemps.
Pour Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy, Metz, Nantes, Nice, Orléans, Tours, Rennes, Reims, Rouen, Strasbourg, c'est la zone B.
Il y aura du monde, mais ça reste vert sur les routes.
Oui, mais soyez prudents, les derniers chiffres de la sécurité routière incitent à lever le pied.
La 25e édition du SIDAction débute aujourd'hui et se prolonge jusqu'à dimanche dans un contexte de banalisation du VIH et du sida.
Nous ne voyons pas de diminution du nombre de contaminations, disent les médecins des maladies infectieuses. En clair, on ne se protège pas assez.
J'avais 20 ans et c'est au détour d'analyse de sang prise par un anesthésiste dans le cadre d'une opération qui a découvert donc que mes analyses étaient positives au VIH. Et à cette époque, j'étais étudiante en deuxième année de fac.
Vous avez immédiatement compris comment vous aviez contracté le virus?
J'ai compris parce que j'avais eu des rapports à risque auparavant, donc ça m'a pas spécialement étonnée, même si j'étais sous le choc. Je me suis dit que j'avais effectivement eu des écarts de conduite et que j'avais pas toujours été réglo, que j'avais fait confiance un peu à l'aveugle, donc c'était pas une surprise sur ce point. Quand on est jeune, on se sent invincible. Et à un moment où on passe tous par cette phase de « il ne va jamais rien m'arriver », c'est pas un virus qui fait une sélection dans ses victimes. Voilà, si vous êtes en contact avec ce virus, il va entrer dans votre corps et il va y rester.
Elle s'appelle Lucie, elle a 27 ans. Il y a près de 172 000 porteurs du VIH en France.
Et pourquoi l'information ne passe pas? Pas assez du moins.
Les trois quarts des jeunes trouvent que l'éducation nationale n'en fait pas assez en matière d'information. Ce qui fait réagir cette infirmière scolaire du lycée Courbet de Belfort, Nathalie Caubien.
Moi, j'ai des élèves donc en seconde qui ont déjà eu des actions de prévention en collège. Et quand je leur demande « est-ce que vous avez eu les informations ?», ils ne se souviennent plus. Alors, je suis quand même un petit peu surprise. Il y a des informations qui sont faites, que ce soit lors des cours d'éducation à la sexualité, mais également en SVT. Je me pose la question, pourquoi le message est donné, mais ils n'ont pas reçu, eux, le message. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, effectivement, peut-être faire plus de campagnes de prévention. Nous, en lycée, on aborde plus la relation à l'autre. Le désir au lycée Courbet, on laisse des préservatifs à disposition des élèves, il y en a dans le hall d'entrée à l'infirmerie, il y a des prospectus. Alors que faut-il faire de plus? Je me pose la question aussi.
Que faut-il faire de plus? En parler encore et encore, parce qu'on ne peut pas se contenter de cette situation. Le sida n'a pas disparu, le virus a changé de visage, il est moins visible, mais il est toujours là.
25 ans plus tard, Lynn Renault est toujours là et le couturier Jean-Paul Gaultier l'accompagne.
C'est vrai que ça avance, alors du coup les gens, certains pensent qu'il ne faut plus du tout se protéger et s'informer aussi pour savoir s'ils sont séropos ou s'ils ne sont pas, parce qu'il faut toujours cette information-là et savoir. Et en plus, quand on est jeune, on a tendance à penser que jamais ça vous touchera. C'est comme le cancer un peu. Moi, quand j'étais gamin, on se disait, ça c'est pour les vieux, quoi. En vérité, pas du tout. Oui, c'est une forme d'inconscience qu'on a étant jeune, quoi. Qui est merveilleux parce que ça nous fait aller vers plein d'endroits, mais ça peut aussi nous faire faire des conneries. Et là, c'en est.
Il faut insister là-dessus. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'une personne dépistée, donc traitée, ne transmet plus le virus. Et tout ça vient du soutien que nous apportons, que le public apporte à la recherche de tels progrès, c'est aussi un peu grâce aux dons du public.
Lynn Renaud et Jean-Paul Gaultier, pour faire un don aussi d'action par téléphone, c'est le 110, c'est un numéro d'appel gratuit.
Et par SMS au 92 110, en envoyant don, pour faire un petit don de 5 euros, le coût d'envoi du SMS gratuit ou inclus dans les forfaits SMS. Et par internet, c'est sidaction.org.
Le sidaction est sur francebleu.fr. France Bleu et Radio France se mobilisent pour le sidaction jusqu'à dimanche.
Et on reste un instant dans le milieu médical, d'autant que les autotests de dépistage du VIH sont concernés.
Oui, comme tous les médicaments délivrés sans ordonnance, les tests aussi pour la glycémie ou le cholestérol ou les traitements contre les rhumes ou les maux de gorge peuvent-ils être vendus en grande surface?
L'autorité de la concurrence a donné son feu vert et la ministre Agnès Buzyn, elle est opposée à la vente de Doliprane, Efferalgan ou Spasfon au supermarché.
Au grand soulagement du président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques, Philippe Bessé.
Moi, ça me rassure, les pharmaciens, ça les rassure, mais les patients, ça doit les rassurer, et surtout les Français. L'important dans l'enjeu, c'est la santé publique, et c'est ce que rappelle Agnès Buzyn. Ce qu'a fait l'autorité de la concurrence dans son rapport, dans son autosaisine, c'est ni plus ni moins que reprendre des thèses vieilles de 60 ans du rapport Ruffarment, ressorties régulièrement tous les 4 à 5 ans, et qui veulent remplacer les officines, notamment dans les territoires, par des grands supermarchés de la santé. Pour mes confrères, je leur dis, ce n'est pas non plus l'intérêt des pharmaciens, c'est peut-être l'intérêt de deux ou trois d'entre nous qui seraient les afflelous de la pharmacie de demain, mais ce n'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, ce sont les territoires, c'est la santé publique, c'est que les pharmacies restent les îlots de santé dans les territoires ruraux, dans les quartiers difficiles. C'est ça l'enjeu, et la ministre l'a rappelé, nous sommes derrière elle.
Philippe Bessé, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Le débat entre les 12 têtes de liste aux européennes a rassemblé moins de 2 millions de téléspectateurs hier soir sur France 2.
C'est la quatrième audience de la soirée, derrière les séries et les films. Il faut dire que l'Europe représente un espoir pour 3 Français sur 10 dans le dernier sondage Odoxa. C'était 6 sur 10 il y a 15 ans.
Bon, 2 millions de téléspectateurs ont quand même regardé le débat, un peu confus parfois.
Oui, comment peut-il en être autrement avec autant de monde sur le plateau? Mais on a quand même échangé, vous avez raison, sur le Brexit notamment. Dans l'ordre d'apparition, Nathalie Loiseau, Jordan Bardella et François Asselineau.
Le Brexit, c'est une catastrophe. J'étais à Londres le jour où Honda a annoncé qu'il fermait une usine et qu'il mettait fin à 3500 emplois au Royaume-Uni à cause du Brexit.
Vous êtes de ceux qui nous expliquent qu'il faut aujourd'hui revoter, par exemple?
Pas du tout.
Vous êtes de ceux qui nous expliquent aujourd'hui que le Royaume-Uni doit assumer sa décision et doit aller au bout? La réalité, c'est que l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée.
Des milliers d'emplois perdus, Jordan Bardella.
Entendre l'analyse de M. Lamblin, économiste reconnu, qui nous explique que l'économie britannique est assez solide.
On se demande pourquoi le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne si le bilan est si positif. Mais...
Alors, dans les dernières nouvelles du Brexit, Theresa May demande un report de la sortie de l'Europe le 30 juin. Donald Tusk, le président du Conseil européen, propose un report flexible allant jusqu'à 12 mois.
Ça bouge un peu en Bretagne en ce moment.
La terre a légèrement tremblé ce matin dans le sud Finistère, une secousse de 3,3. 3,3, on peut la ressentir, mais il n'y a pas de dégâts.
13h09 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera avec Victor Hugo. C'est aujourd'hui que sa maison de Guernesey, Hauteville House, est inaugurée après une longue rénovation. Mais avant, on retourne à Auxerre, après la victoire de l'équipe de France féminine qui prépare la Coupe du Monde en France. Et on regarde ce qui s'est passé cette nuit, pendant que nous dormions. La sonde japonaise Hayabusa a lancé un explosif sur une astéroïde.
Hayabusa sur l'astéroïde Ryugu? On se croirait dans un film de science-fiction, mais on est dans la vraie vie, et dans la vraie vie, mais pourquoi faire, Valérie Barbe?
Bon, d'abord, Denis, pardon, mais comme justement on est dans la vraie vie, on doit d'abord dire chapeau à la sonde Hayabusa, car mission absolument réussie à 100%. Et bonjour l'exploit, imaginez, elle a dû balancer une charge explosive sur l'astéroïde, et juste après, aller se planquer pour éviter de se prendre un bout de roche dans la carlingue, ce qui aurait pu la détruire, et avec les précieux échantillons de poussière déjà récoltés à la surface de l'astéroïde. Mais non seulement Hayabusa s'en est sortie comme une championne, mais en plus, elle a pu envoyer une caméra qui a absolument tout filmé.
D'accord, bon, bravo, mais tout ça pourquoi?
Vous voyez, Frédéric aussi, elle s'interroge.
Bon, bah d'accord, à l'unanimité, je vous réponds. Donc, pour creuser un cratère. À la fois, c'est pour en savoir plus sur l'astéroïde lui-même, et aussi, et presque surtout quand même, pour récolter des échantillons de poussière, mais cette fois, dans le sous-sol de l'astéroïde. Des échantillons qui vont être comparés avec ceux pris à la surface. face. Le but, excusez-moi du peu, c'est de percer le mystère du début de la vie sur Terre. Alors en attendant, Hayabusa est en vacances pour 2 semaines, un peu comme nous, bien à l'abri des petits débris tueurs qui pourraient encore traîner. Et à la reprise, elle va retourner sur l'astéroïde pour immortaliser en photo son œuvre.
Valérie, Hayabusa, c'est japonais?
Absolument.
Donc merci et sayonara Valérie.
Oh bah écoutez, alors moi dans ce cas-là, je vais vous dire bravo parce que vous parlez couramment japonais, ça se dit bravo.
Je vais vous laisser toutes les deux.
Oui, on va faire comme ça. Merci.
On est toujours sur France Bleu, hein, pas France Bleu International.
Merci à vous.
Puisqu'on a donné les audiences télé de la politique tout à l'heure, eh bien, la victoire 3-1 face au Japon, justement, la victoire de l'équipe féminine de France de football, a été vue par plus d'1 million de téléspectateurs hier soir.
Et vous pouvez ajouter à cela 15 000 spectateurs au stade de la Baie des Champs à Auxerre. La milieu de terrain, Gaëtan Tinet, a apprécié l'ambiance.
C'était génial et c'est aussi une très très bonne préparation au niveau émotionnel pour la Coupe du Monde parce que c'est une énergie hyper positive, c'est beaucoup de belles sensations et c'est ce qu'on va avoir lors du premier match. Donc il faut s'habituer à ça et on s'habitue progressivement, c'est très bien. Chaque fois qu'on fait un match en France, il y a quasiment guichet fermé. On a cette chance incroyable, donc il faut que ça nous porte. Et je pense que pour l'instant, on le prend très positivement, donc il faut continuer à y aller progressivement jusqu'à la Coupe du Monde.
Elles sont sympas les Françaises, elles jouent bien et en plus elles gagnent. Pas étonnant que le public réponde présent.
Superbe match, beaucoup d'échanges, c'est très groupe, enfin bon, ils sont pas individualistes. Super, premier match féminin et magnifique.
Ah, moi j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré.
Elles sont vraies.
C'est fluide, c'est sympa et puis elles jouent comme des pros quoi.
Un petit peu de longueur par moment, je trouvais. Ça tape moins fort que chez les garçons.
Ça fait longtemps que j'ai pas vu un beau match comme ça, la GIA.
Non, mais en plus, c'est fin, quoi. C'est féminin, c'est... Ils font pas du cinéma, ils sont pas en train de se mettre par terre sur la pelouse. Enfin, bon, du jeu, quoi. Des vraies femmes. Super.
Très belle ambiance. J'adore le football féminin. C'est quand même plus sympa que le football masculin.
Non, non, puis du monde, quoi. Du monde, et ça nous change. Par rapport à les matchs de la GIA, ça n'a rien à voir, quoi. Vive les femmes.
Elles font pas du cinéma, les filles. Elles se roulent pas par terre pendant un quart d'heure, vous avez entendu?
Oui.
La Coupe du Monde de foot débute dans 2 mois en France. Ce sera le 7 juin et le prochain match de préparation, c'est lundi contre le Danemark à Strasbourg.
Il y a quelque temps, nous étions à Guernesey avec une heure en France pour suivre les travaux de restauration de la maison de Victor Hugo.
Ouais, c'est vrai.
Alors, la maison est inaugurée en grande pompe ce vendredi avec François Pinault, le mécène de l'opération. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, est à Guernesey.
Et vous aussi, Katia Lautrou?
Oui, parce qu'Hauteville House a été le lieu de travail de Victor Hugo. C'est dans cette demeure que l'auteur a écrit quelques-uns de ses plus beaux chefs-d'œuvre, comme Les Misérables ou Les Travailleurs de la Mer. Située sur les hauteurs de Saint-Peter-Port, à Guernesey, la maison a abrité l'écrivain et sa famille en exil pendant près de 15 ans, de 1856 à 1870. La demeure toute blanche est bâtie sur 5 niveaux, et c'est là que Victor Hugo également se révélera un architecte visionnaire. Un bémol, bon dessinateur, il n'était pas, paraît-il, forcément un bon ingénieur. L'écrivain avait fait couper, par exemple, des morceaux de toit pour faire une serre à 2 étages et ses travaux ont provoqué au fil des ans des infiltrations d'eau. Mais qu'importe, il fera de cet endroit une véritable œuvre d'art de 1200 mètres carrés, détournant les objets du quotidien, assemblant du mobilier et faisant du vestibule, du salon rouge ou encore du jardin d'hiver des pièces exceptionnelles. Sans oublier bien sûr le fameux lookout, le cabinet de travail vitré installé au 3e étage qui surplombe la baie de Saint-Peter-Port et regarde la France. Un travail de documentation historique et colossal a été réalisé pour revenir au plus près de ses décors d'origine. Hauteville House va donc retrouver son lustre d'antan alors que Victor Hugo aimait tant dire que l'architecture était une pensée écrite en pierre.
Katia Lautrou sur la trace de Victor Hugo et c'est à retrouver sur francebleu.fr avec toutes les photos de la maison de Victor Hugo à Guernesey.
On aurait pu vous lire un poème de Victor Hugo, on a finalement opté pour Françoise Hardy qui chante un texte de Victor Hugo tiré de L'Âme en fleur.
Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi?
Bonne question.
Si vous n'avez rien à me dire, moi, pourquoi me faire ce sourire dont la douceur m'emplit d'émoi? Si vous n'avez rien à m'offrir qu'un peu de trouble, de désarroi, rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi?
Vous oublié de nous faire pleurer, Denis. Allez, la suite du Nord en France nous emmène à Marseille, à Clermont, Valence, Nice et Rennes.
Il est question de savon, de dons de moelle osseuse et de bière. À découvrir après la météo.
FranceBleu.fr. Toutes les infos pratiques de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.